Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et avant les lectures bibliques, nous prions encore. Seigneur, oui, c'est ta parole qui nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu es lumière éternelle et tu nous as envoyé ton Fils qui lui aussi est lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Merci, éternel, d'avoir chassé l'obscurité de notre vie et de nous avoir fait te voir, fait voir la grandeur de ta grâce, la beauté de ton Fils bien-aimé, ses dispositions pour nous de pardon, de sacrifice volontaire, de sang versé, de conclusion d'une alliance éternelle par son sang en notre faveur. Voilà, Seigneur, tout ce que ta parole nous fait connaître. Et il nous est bon à nouveau d'entendre ces choses ce matin, d'entendre parler d'Abraham, le père des croyants, qui déjà, il y a si longtemps, s'est confié en toi et a reçu de toi ce qui, plus tard, allait être réalisé par Jésus-Christ, dont Abraham a vu le jour et il s'en est réjoui. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Que tu la graves par ton esprit dans nos vies tout entières, Seigneur, afin qu'elle te reflète, afin qu'elle soit à l'image de Jésus-Christ. Sanctifie-nous par elle, Seigneur, et qu'en ce monde, on te voit. Ton Église est la colonne et l'appui de la vérité. Que cette vérité dans nos vies soit publiée et par ton Église dans tous les lieux de cette terre. Nous te demandons cela aussi pour nos frères et sœurs persécutés, que oui, le boisseau ne puisse pas être mis par les autorités politiques ou par des ennemis quelconques sur ton Église qui doit fuir, qui doit se cacher, qui est emprisonnée, que malgré ces restrictions, Seigneur, ta lumière continue d'être visible, ton salut propagé. Oui, dans les prisons, dans tous ces lieux sombres, Éternel, ajoute à ton Église ce que tu veux sauver par Christ, où que ce soit, et aussi parmi nous, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Merci de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole. Merci d'avoir pourvu un serviteur pour nous enseigner. Nous te demandons de le bénir, de le remplir de ton esprit. De même aussi que pour les enfants, ceux qui s'en occuperont, Jeanne et Clint. Seigneur, nous voulons t'écouter tous. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Les lectures, eh bien, nous sommes toujours dans le cycle d'Abraham. Donc, trois lectures. D'abord, dans la Genèse, où se situe l'histoire d'Abraham. Au chapitre 12, d'abord, les versets 10 à 13. Genèse, chapitre 12, les versets 10 à 13. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi. Et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Un peu plus loin, chapitre 16, les quatre premiers versets. Tournons les pages jusqu'au chapitre 16, dont nous lisons les quatre premiers versets. Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne, Agar, et la donna comme femme à Abraham, son mari. Après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Encore un peu plus loin, chapitre 20, deux versets, les deux premiers versets de ce chapitre 20. Cette fois, Abraham n'aboutit pas en Égypte, mais dans le pays des Philistins. Abraham partit de là pour le pays du Négueb. Il s'établit entre Kadesh et Chour, puis séjourna à Guérar. Abraham disait à sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Et lisons dans le Nouveau Testament un éclairage concernant le fils que Sarah a cherché à donner à Abraham et le fils que Dieu leur a donné. Galates 4, les versets 29 et 30. Galates, chapitre 4, les versets 29 et 30. Galates 4, 29. Mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre.
Pour nous rappeler la dépendance du Saint-Esprit, j'aimerais vous montrer quelque chose ce matin. C'est une boussole qui indique le nord, normalement. Et puis, cette boussole peut avoir parfois des perturbations. Donc si je vais avec ici un champ magnétique, elle peut complètement perdre la boule. Ok ? Eh bien, c'est de même lorsque nous lisons la parole, nous pouvons complètement être déboussolés. Et nous avons besoin que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs et nous guide.
Et je vois que je dois arrêter mon téléphone, c'est parfait. C'était même pas voulu.
Et nous comptons donc sur l'œuvre du Saint-Esprit pour que notre boussole reste sur le nord de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. En ce début d'année, nous avons débuté une petite série sur le personnage d'Abraham. Nous avons vu ensemble la naissance de la foi de ce personnage si important dans les Écritures. On avait vu 6 choses ensemble dans la naissance de sa foi. On avait vu la crainte du Seigneur qui accompagne la foi. Nous avions vu que ce ne sont pas les œuvres, mais une obéissance confiante qui sont les fondements de la foi. Troisièmement, la séparation d'avec le monde qui caractérise la foi. Nous avions vu que la saisie des promesses de Dieu nourrit la foi. Cinquièmement, que croire que Dieu peut faire l'impossible soutient notre foi. Et sixièmement, le don de Dieu est la source de la foi. Et lors de la deuxième prédication, qui parlait de sa foi mise en pratique avec Abraham, nous avons vu 5 caractéristiques de la foi d'Abraham. La première, c'était la foi qui accueille avec Lot son neveu. Deuxièmement, la foi altruiste qui cherche la paix, le choix donné à Lot. Troisièmement, la foi courageuse d'Abraham qui va délivrer Lot qui a été pris en otage. Quatrièmement, la foi généreuse d'Abraham face à Melchisédek. Et cinquièmement, la foi qui intercède. Et nous avons vu que Lot a été épargné du jugement. Abraham, que nous avons vu, nous présente une foi exemplaire. C'est vrai, on le voit dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, une foi exemplaire. Et n'hésitons pas à suivre son modèle. Vous me direz peut-être qu'Abraham était exceptionnel, qu'il était hors norme, sans faute, inatteignable. Eh bien, détrompez-vous, Abraham a aussi été désorienté comme notre boussole de tout à l'heure. La Bible, vous savez, n'est pas un livre qui met en avant des hommes en enlevant tout ce qui pourrait nuire à leur image, comme c'est souvent le cas dans des biographies d'ailleurs. Le but de la Bible, ce n'est pas de mettre en avant des hommes et enlever tout ce qui pourrait nuire à leur image. En fait, la Bible met en avant l'œuvre parfaite de Dieu. C'est ça que la Bible met en avant, c'est l'œuvre parfaite de Dieu et il ne cache pas les égarements des hommes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi désorientée d'Abraham. Sa boussole de foi qui dirigeait si bien vers l'Éternel a parfois été désorientée. Et à chaque fois, Sarah fait partie du tableau. Alors, est-ce que le problème, c'est Sarah ? Eh bien, non. Le problème n'est pas Sarah, mais sa relation avec Sarah. Donc, la relation d'Abraham avec Sarah est un problème. Abraham, en fait, n'a pas coupé le cordon ombilical avec son père, qui, bien que mort, définit encore le lien, en fait, avec Sarah, qu'il considère comme frère et sœur, et non pas comme mari et épouse, comme cela aurait dû être le cas. Mais Dieu va intervenir dans les diverses désorientations d'Abraham pour rétablir cette relation qui est le terreau, en fait, de l'accomplissement des promesses. Il fallait vivre ce foyer qui soit stable, qui soit selon Dieu, pour qu'un enfant, l'enfant de la promesse, puisse arriver. Comme nous étudions le personnage d'Abraham de façon thématique, eh bien on voit différents éléments, on ne suit pas le texte exactement, on est plutôt par thème. Et ici, nous allons ce matin parler donc de 3 désorientations spirituelles plus une. Vous verrez pourquoi j'ai dit plus une dans la suite de la prédication. Donc le premier point, ce sera le mensonge en Égypte. Vous verrez que c'est un lien avec la sortie d'Égypte. Le mensonge en Égypte, la sortie d'Égypte. Deuxièmement, a-t-il réellement dit ? On pourrait appeler ça la chute bis. Troisièmement, le mensonge à Guérard. Le mensonge à Guérard, un frère devient un mari. Et quatrièmement, l'héritage particulier. Voilà le programme pour ce matin. Et au dos de vos documents que vous avez pu prendre à l'entrée, vous trouverez la chronologie de la vie d'Abraham et vous verrez que chacun de ces 4 événements ne se sont pas déroulés la même semaine. D'ailleurs, les 3 premiers événements que nous allons voir, il y a chaque fois 10 ans entre chaque événement. Donc, premièrement, nous allons nous arrêter sur le mensonge en Égypte, que j'ai aussi intitulé « La sortie d'Égypte ». C'est en fait la première descente en Égypte qu'on voit dans la Bible. C'est la première fois qu'il est fait mention de l'Égypte. Et ce pays, en fait, deviendra le symbole du monde. Dans la Bible, le symbole de l'Égypte, c'est chercher appui sur l'homme ou sur le monde au lieu de le chercher en Dieu. Chercher son appui sur l'Égypte, c'est chercher son appui sur l'homme ou le monde et non en Dieu. Ainsi, le chrétien qui, quelque part, vit d'une manière qui s'appuie sur le monde, descend quelque part spirituellement en Égypte. Le chrétien descend en Égypte spirituellement parlant chaque fois qu'il s'appuie sur une chose, une personne autre que Dieu pour être secouru. Pour Abraham, il n'y a pas d'ordre de Dieu qui lui interdisait d'aller en Égypte. On n'a pas vu d'élément où Dieu lui dit « je t'interdis d'aller en Égypte », mais il a quand même clairement dit à Abraham que c'est le pays de Canaan qui lui donnerait en héritage. Donc pourquoi partir du pays promis ? Abraham est généreux, nous l'avons vu avec Lot. Lorsqu'il lui propose de choisir, alors que Dieu lui a donné tout le pays de Canaan en héritage, il a dit à Lot « choisis ». On a vu, c'est une œuvre de foi. Abraham est courageux aussi. Il l'a démontré avec Lot, qu'il était même quasiment prêt à mourir avec 300 hommes pour aller battre toute une coalition d'armées. Abraham a tout quitté par la foi. Mais il y a un grain de sable. Dès que la relation avec Sarah entre en jeu, il y a comme une boussole perturbée. C'est la première fois, d'ailleurs, en descendant en Égypte, qu'il fait la mention de la beauté de Sarah. Abraham, en fait, en allant dans le pays de Canaan, n'avait aucune peur. Et il était déjà marié à Sarah, la magnifique, qui gagnait tous les concours de beauté, si vous voulez. Ce n'est donc pas un compliment qu'il lui adresse lorsqu'il descend en Égypte. Mais en fait, la cause, selon lui, de futurs ennuis. Il descend en Égypte en temps de paix. Et tout à coup, il semble à Abraham que Dieu n'est plus capable de le délivrer même de toute une armée s'il le fallait. Il fallait qu'il trouve lui-même un moyen de se protéger. Il est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes qui se passaient. Un papyrus nous dit, par exemple, qu'un pharaon a envoyé deux corps d'armée pour s'emparer d'une femme après avoir tué son mari. Peut-être qu'Abraham était au courant de cela. Mais Abraham ne cherche ni conseil, ni appui auprès de l'Éternel. En tout cas, ce n'est pas mentionné. Sa boussole est désorientée. Il cherche à faire croire que Sarah n'est pas sa femme afin de rester vivant et d'être bien traité. Donc Abraham ne cherche ni conseil, ni appui auprès de l'Éternel. On ne le voit pas dans les textes. Et il cherche à faire croire que Sarah n'est pas sa femme afin de rester vivant et d'être bien traité. Parce qu'en fait, on donnait des cadeaux aux frères de femmes magnifiques pour attirer ses faveurs. Et là, c'est une question qu'on peut se poser en tant que mari. Avez-vous déjà cherché à faire croire que vous n'étiez pas marié pour votre avantage ? C'est peut-être une question aussi pour les épouses, d'ailleurs. Cette question peut paraître étonnante, surtout pour les amoureux qui se préparent au mariage, c'est vrai. Mais lorsqu'on descend en Égypte et que les valeurs ne sont pas les mêmes que la parole de Dieu, il peut arriver que ce chemin glissant nous fasse déraper. Ésaïe a bien dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours ». Mais heureusement, Dieu vient même nous chercher en Égypte, où nous sommes quelque part esclaves de notre propre péché, pour nous en faire sortir. Abraham, ici, était bien coincé, en fait. Avec sa femme, qui avait été prise par le pharaon, il ne pouvait plus partir et était, on pourrait dire, dans de beaux draps. Si Dieu ne nous délivrait pas de nos détresses et de nos situations désespérées, le tout à cause de nos propres péchés et de notre folie, nous irions droit à la ruine. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, heureusement. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire ici avec Abraham et avec sa femme qui est donc chez Pharaon ? Dieu va envoyer une plaie contre le Pharaon. Une plaie, les plaies d'Égypte, ça rappelle un peu quelque chose, hein, ça viendra plus tard d'ailleurs. Dieu va sortir Abraham d'Égypte comme il en sortira son peuple plus tard, par des plaies qui vont faire que le Pharaon le chasse du pays. Et dans le cas d'Abraham, Dieu va utiliser le Pharaon pour humilier Abraham devant tout le royaume. Il est dit dans Genèse 12, 19, donc je vous invite à toujours avoir vos Bibles un peu dans Genèse 12 à 20, hein. On va un petit peu voyager. Et verset 19 du chapitre 12, il est dit, c'est le pharaon qui dit, « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ?» Et il le dit publiquement, hein. « Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Prends ta femme, prends tes responsabilités, comprends quelle est la relation avec ta femme et va-t'en. » Abraham ne pouvait plus témoigner de sa foi en Dieu à Pharaon à ce moment-là. Et quel contraste avec son petit-fils plus tard, qui Joseph sera en Égypte, tenté par le désir de la femme de Potiphar, et qui lui, en fait, fuira de lui-même pour que sa foi soit reconnue. Et à l'époque de Joseph, le pharaon même a reconnu l'œuvre de Dieu en Joseph. Revenons à Abraham. La désorientation d'Abraham l'a amené à pécher. Et malgré le fait que Dieu l'a délivré d'une situation impossible avec le pharaon, il y a des conséquences au péché d'Abraham. Il y a des conséquences. Il ne faut jamais prendre le péché à la légère. Dieu efface nos transgressions si nous les confessons. C'est vrai. Nous sommes purifiés, lavés. C'est vrai. Ce qui n'enlève pas bien des conséquences de notre vie terrestre. D'ailleurs, Jésus a dû mourir pour nous pardonner. Abraham a menti. Il a renié l'alliance avec sa femme et l'a déshonorée en laissant un autre homme s'approcher d'elle. Et j'aimerais vous parler de 6 conséquences du péché d'Abraham ici, dans ce qui s'est passé ici. Donc, en plus d'avoir déshonoré son épouse. La première conséquence, c'est que le péché d'Abraham attriste l'Éternel. Le péché est toujours une cause de tristesse pour Dieu. Deuxièmement, le péché d'Abraham affaiblit sa résistance face au péché. En fait, il le répétera malheureusement encore. Hein, on le lit dans Genèse 20, nous y reviendrons au point 3. Donc le fait d'avoir vécu cela, de ne pas avoir réglé clairement, d'ailleurs il a été chassé, hein, donc il n'a pas demandé pardon ou quoi que ce soit. Donc le péché d'Abraham affaiblit sa résistance face au péché. Troisièmement, le péché d'Abraham entraîne Lot dans la mondanité. Parce que Lot, quand il choisira, un peu plus tard, hein, quelque chose, enfin, où il va aller, il va choisir quelque chose qui ressemble à l'Égypte. Lot était venu avec Abraham en Égypte, il était revenu ensuite, puis ensuite il y avait l'histoire des bergers qu'on a vu la dernière fois, ils se sont séparés. Et là, en fait, Lot, il est dit dans le texte, hein, que Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et quand est-ce que Lot a découvert le pays d'Égypte? C'est quand Abraham l'a pris avec lui et qu'il y a eu toute cette situation avec Sarah. Donc voilà une conséquence aussi du péché d'Abraham. Quatrièmement, le péché d'Abraham est la cause de la plaie dans la famille du Pharaon. Le fait qu'il y ait une plaie dans la famille de Pharaon, c'est à cause du péché d'Abraham. Quel désastre lorsqu'un chrétien est la cause de l'épreuve de non-croyants. Les reproches de Pharaon à Abraham sont fondés. Comment témoigner de sa foi en l'Éternel dans ces cas-là? Cinquièmement, le péché d'Abraham a provoqué l'arrivée d'Agar. Agar, c'est une Égyptienne qui est revenue avec lui au pays de Canaan et qui deviendra sa maîtresse plus tard. Nous le verrons au point 2. Et sixièmement, le péché d'Abraham donne un mauvais exemple. Un mauvais exemple qui sera suivi plus tard même par son fils Isaac, qui fera la même manigance en disant que sa femme est sa sœur, alors qu'en fait, ce n'était même pas sa sœur, c'était en réalité la fille de son cousin. 6 conséquences, pour prendre juste quelques temps par rapport à ce sujet-là, 6 conséquences qui devraient nous faire haïr le péché et chercher à l'éviter par tout moyen dans nos vies. On ne va pas dire « Seigneur va me pardonner, je peux pécher ». Non, il y a des conséquences dans notre vie terrestre. Dieu pardonne, il purifie, il justifie et certaines traces de péché, par contre, resteront jusqu'au renouvellement de toute chose. Si vous êtes plein de rage et que vous vous coupez le bras, vous pouvez aller vers Dieu demander pardon pour le péché du non-respect de la créature que vous êtes. Vous pouvez demander pardon pour la colère et la rage que vous avez eue à ce moment-là. Et Dieu pardonnera, c'est vrai. Et votre bras restera coupé. Il y a des conséquence. Et cela ne signifie pas, si votre bras ne repousse pas, que vous n'êtes pas pardonné. Heureusement, l'Éternel a délivré Abraham de l'Égypte et du drame de la séparation avec sa femme. Dieu est bon. Abraham est revenu à Bethel. On voit le retour, sa sortie d'Égypte, retour à Bethel. Et là, tout à coup, on voit de nouveau Abraham qui invoque l'Éternel. Donc, on voit là un retour vers l'Éternel et qu'il cherche à compter sur lui et non plus sur ses combines. Dieu garde ses élus, ceux qui sont appelés justes en Christ. Il est dit dans Proverbe 24, 16, « Car à 7 reprises, le juste peut tomber et il le relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Voici ce que disait un commentateur il y a quelques années, donc c'était avant qu'on arrive au début du siècle, c'est la fin du siècle passé. Et il disait ceci, « Souhaitons en cette fin de siècle, et si le Seigneur tarde à revenir, que des caravanes de chrétiens quittent leur Égypte pour retrouver leur Bethel. Que des autels délabrés soient reconstruits pour que la prière monte à nouveau vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur et que les pèlerins de la foi reprennent leur marche victorieuse vers leur Canaan afin que les promesses divines se réalisent enfin dans leur vie. » Jésus veut nous faire sortir de notre Égypte, l'Égypte du mensonge. Il veut nous faire sortir de l'Égypte du mensonge pour nous faire vivre dans le pays promis de la vérité. 10 ans plus tard, attendant toujours la descendance qui ne vient pas, Abraham a 85 ans et Sarah 75, ou 85 et 75, si vous voulez des traductions. Et nous voici face à une nouvelle désorientation. C'est notre deuxième point. C'est la deuxième désorientation qui se déroule dans Genèse 16. Vous voyez, dans Genèse 16. Sarah, après toutes ces années, n'en peut plus de ne pas avoir d'enfant. Elle aimerait se construire et a besoin d'un enfant pour cela. Elle aimerait que la promesse s'accomplisse. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que ça va s'accomplir ? Elle a besoin, quelque part, on a l'impression de se construire avec cet enfant. Mais lors de la création, c'est Dieu qui construit la femme. Elle a été créée comme vis-à-vis de l'homme, pas premièrement comme mère. L'enfantement est un épanouissement pour les femmes et non pas une partie de leur identité. Ceci est important pour la relation avec les enfants et également d'ailleurs important pour toute autre femme ou homme qui n'ont pas d'enfants. L'identité est construite par Dieu et est complète, même sans enfants. Sarah sait que Dieu a promis une descendance à son mari, il faut bien faire quelque chose, il ne vient pas, hein ? Mais si Dieu ne donne pas, ben, elle va prendre ce qu'elle trouvera. Voilà ce qui se passe pour Sarah. Elle regarde autour d'elle comment elle pourrait pallier à cette situation et appelle son mari pour une discussion sérieuse. Abraham vient l'écouter et là, Sarah dit quelque chose de très fort. « L'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. » Qu'est-ce qu'Abraham va répondre ? Que peut-il répondre ? Il constate bien que lui-même, que sa femme ne lui donne pas d'enfant. Elle a donc raison. Mais une lampe rouge devrait s'allumer dans la tête d'Abraham à ce moment-là. Dieu lui avait dit qu'il aurait une descendance de ses entrailles. Ça, c'est dans Genèse 15, verset 4. Et la descendance se fait dans le cadre du couple que Dieu a créé. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Donc lorsqu'il n'a pas permis l'enfantement jusqu'à présent, c'est qu'il a ses raisons. Et s'il peut empêcher, il peut aussi l'accorder. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Donc s'il n'a pas permis l'enfantement jusqu'à présent, c'est qu'il a ses raisons. Et s'il peut l'empêcher, si on dit que c'est lui qui empêche, ben il peut aussi l'accorder. Mais Sarah ne voit pas ça de cet œil. Elle se tourne vers la mère porteuse et l'adoption. Elle veut faire porter un enfant à une autre femme et se l'approprier ensuite. C'est une grande tentation, encore aujourd'hui en fait, hein, dans notre époque. En ce qui nous concerne, avec mon épouse, le Seigneur ne nous a pas donné d'enfant. Et nous avons suivi quelques traitements pour favoriser la conception et rien n'y a fait. Et on nous a proposé exactement la même chose que Sarah et Abraham, mais avec des termes scientifiques, hein, en utilisant des procédés médicaux, mais pas moins immoraux. Dieu, dans sa grâce, nous a permis de saisir cet enjeu, de nous arrêter, même si ainsi tout s'arrêtait humainement pour nous. En passant, j'aimerais vous proposer à tous de vraiment prier particulièrement maintenant. Le Conseil fédéral vient de proposer, le 30 janvier 2025, une loi indigne qui veut autoriser le don d'ovules, en plus du don de sperme scandaleux déjà autorisé. Et pas seulement pour des personnes mariées, mais aussi pour des couples non mariés. Prions que Dieu agisse et que cela ne se passe pas. C'est un jugement sur nous si cela va dans cette direction-là. Le combat d'Abraham n'est pas une mince affaire. L'enjeu est de taille. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il faut un descendant. Abraham il ne cherche pas à tromper sa femme. Il cherche la descendance que Dieu lui a promise. Et pour l'instant, Dieu n'a pas directement parlé de Sarah. Il a parlé à Abraham qu'il aurait une descendance. Il n'a pas directement parlé de Sarah, même si c'est logique, puisque c'est sa femme. C'est intéressant d'aller dans Malachie, parce que Malachie parle exactement de ce qui s'est passé pour Abraham ici. C'est vraiment intéressant. Malachie 2, versets 14 et 15 nous dit ceci. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? C'est Abraham, hein ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Et Malachie continue en disant, « Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Sarai, en fait, agit selon sa seule envie. Elle va utiliser les autres pour arriver à ses fins. Et il y a une bonne dose d'illusion, en fait, de la manière d'agir de Sarah. Sarah ne deviendra pas une autre femme par cet enfant. Tout ceci fait partie, on pourrait dire, de la convoitise. C'est la même logique que Ève. Dieu ne veut pas donner quelque chose, donc il faut le prendre soi-même. Abraham, comme Adam, n'a rien dit. Et il a agi selon ce que Sarah lui a dit de faire. Sarah implique une autre femme dans le couple et Abraham ne dit rien. C'est une terrible situation. Il ne veut pas renvoyer Sarah à son problème, car cela va révéler son propre problème relationnel avec elle. Il continue d'agir comme un frère, quelque part, comme son frère, et non comme son mari qui a une alliance, qui doit la protéger et qui doit l'aimer. Et voici qu'Abraham va vers Agar et elle se trouve enceinte. Et cette nouvelle maman regarde la stérile avec mépris. Littéralement, sa maîtresse fut légère, de peu de valeur à ses yeux. Alors que Sarah voulait avoir plus de valeur en ayant un enfant, c'est exactement l'inverse qui arrive aux yeux d'Agar. C'est l'étincelle qui fait exploser la dynamique. Sarah est face à son problème qui ne se résoudra pas avec Agar et Abraham ne fait rien. Voici ce qu'elle dit en Genèse 16, verset 5. Regardez, Genèse 16, verset 5. Alors Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » En fait, en voyant qu'Abraham ne prend pas l'affaire en main, mais lui renvoie la responsabilité, elle en appelle à l'Éternel. Et Abraham répond, mais alors quelle réponse ? En fait, lui, il aimerait que tout redevienne comme avant, que ce mauvais rêve s'arrête. Il dit à sa femme d'agir comme une maîtresse avec sa servante, comme elle l'a toujours fait par le passé. Et elle est chassée. Et l'ange de l'Éternel intervient. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit l'ange de l'Éternel dans la Bible. Là, je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais l'ange de l'Éternel dira à Agar qu'elle doit s'humilier devant sa maîtresse et mettre de l'ordre dans la maison. Donc déjà, Agar doit réagir d'une manière qui est juste. Ça, c'est l'Éternel qui agit. Mais Abraham, dans ce cas, comme Adam, ne prend pas ses responsabilités. Combien il est facile de rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Ne le faisons-nous pas aussi parfois, peut-être trop souvent. Ne rien dire ou laisser passer l'orage ou faire que ce que l'autre demande sans pour autant une réelle relation. On le fait pour qu'on nous laisse tranquille. Abraham devait protéger Sarah de sa propre convoitise. et ne devait pas la laisser livrer à elle-même, mais lui-même entrer dans la réflexion avec elle, tourner le regard ensemble vers l'Éternel, le consulter, déposer leur fardeau.
Moi, j'aime regarder vers Christ, parce qu'en fait, on voit que là, il y a un problème avec Abraham. Il n'est plus en train de représenter Christ.
Or, souvent, quand il y a un problème dans l'Ancien Testament, c'est pour faire éclater l'inverse vers Christ. Jésus-Christ aime son épouse d'une manière exclusive. Il la défend. Il ne la laisse pas s'éloigner de lui. Éphésiens 5, 25 à 27 nous dit clairement « Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. »
Jésus n'est pas Abraham. Il est parfait. Il ne laissera jamais aller les choses et faire retomber la responsabilité sur l'autre, comme Adam l'a fait aussi avec Ève. Jésus n'a même pas reculé devant son propre sacrifice pour sa bien-aimée.
Jésus est le nouvel Adam, le nouveau mari parfait qui prend ses responsabilités, qui ne laisse pas s'égarer et qui place une confiance totale en Dieu. Jésus est le nouvel Adam, le nouveau mari parfait qui prend ses responsabilités, qui ne laisse pas s'égarer, qui place une confiance totale en Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous confier totalement en Jésus-Christ. Dans tout ce que nous vivons, ce qu'il nous dira sera toujours juste et pour notre bien éternel. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cette malheureuse affaire qui influence encore l'histoire actuellement, c'est que Dieu n'a jamais besoin de nos fautes pour accomplir sa volonté. Dieu ne demandera jamais de commettre un adultère pour accomplir sa volonté. Ou de commettre un meurtre ou d'adorer une statue. Dieu ne se contredit jamais.
Alors oui, Dieu peut transformer le mal en bien, ça c'est sa capacité. Mais il ne va jamais demander de faire un péché pour accomplir sa volonté.
Ce que Dieu demande, c'est la patience, la fidélité, l'obéissance sans concession à sa volonté, grâce à la force qu'il nous donne selon Philippiens 2,13.
Et nous voyons par la suite, et nous avons entendu dimanche passé, qu'on a parlé de la foi de Sarah. Sarah n'est pas restée dans cette situation-là, on y arrivera.
Mais nous allons voir que malgré cette désorientation, Dieu ne laisse pas tomber son élu. On va passer au troisième point qui se déroule à Guérar, une quinzaine d'années plus tard. L'Éternel vient lui annoncer que l'année prochaine, il aura un fils par Sarah qui s'appellera Isaac. Donc ça, c'est dit. La promesse semble se réaliser tout bientôt et voilà que la foi d'Abraham est à nouveau déboussolée. Ce n'est vraiment pas le moment de faire des bêtises avec Sarah. Elle doit tomber enceinte dans les mois qui viennent.
Donc on arrive à notre troisième point, le mensonge à Guérar. Dans Genèse 20 maintenant, donc on peut continuer dans Genèse 20, dans nos Bibles.
Abraham, pour une raison que nous ignorons, se déplace au sud du pays. C'est en fait de nouveau en direction de l'Égypte. Il va à Guérar et là, il utilise la même stratégie qu'en Égypte concernant sa femme, qui était maintenant âgée de près de 90 ans.
Alors, c'est vrai que les rois prenaient souvent des femmes pour faire alliance avec le membre d'une famille.
Et Abraham est fort riche. Il est donc naturel que le roi de Guérar veut faire alliance avec Abraham. Mais dès qu'Abimélec prend Sarah pour en faire sa femme, Dieu intervient. Dieu intervient, tout de suite. Il avertit ce roi que la femme qu'il a prise est mariée et lui dit clairement qu'il l'a empêchée de la toucher. Dieu veut que ce soit clair, l'enfant que Sarah va mettre au monde vient d'Abraham et non d'Abimélec.
Ça doit être très clair. Voilà pourquoi ces choses-là sont écrites ici dans la parole de Dieu.
Mais avant cette naissance, Dieu veut régler un vieux problème. Abraham doit devenir, on pourrait dire, le mari de Sarah et pas rester son frère.
Il doit devenir le mari de Sarah et pas rester son frère.
Comment Dieu s'y prend-il ? Eh bien, il utilise un roi païen pour parler à Abraham. Abimélec fait des reproches à Abraham en lui disant que ce qu'il a fait est inadmissible. Ok ? Mais il n'en reste pas là. Parce que comme 24 ans plus tôt, le pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il l'avait simplement chassé. Voilà, c'est tout. Ici, ce n'est pas ce qui se passe. Il dit maintenant, tu dois t'expliquer, mon gars. Maintenant, prends tes responsabilités. Il demande quelle était son intention. Cette fois, notre homme ne pourra plus se défiler et continuer à jouer ce même scénario. Il est placé face à ses responsabilités. Il n'est pas chassé pour continuer à fuir. Il doit avouer ses intentions. Et en le faisant, il va se libérer d'un poids immense. Et il va aussi libérer Sarah de ce jeu pernicieux. Abimélech, dirigé par Dieu, fait alors un acte extraordinaire de signification. Dans Genèse 20, verset 16, il donne 1000 pièces d'argent à Abraham pour blanchir Sarah. On pourrait dire qu'Abimélech joue le rôle du père qui donne sa dot pour sa fille. Et maintenant, pourrait-on dire, Abraham, le frère qu'il était, devient le mari de Sarah, en cherchant à vivre l'héritage qui sera donné à ce fils miraculeusement reçu dans sa vieillesse. Abraham fait table rase. Il faut parfois faire le point dans sa vie, mettre tout en ordre, ce que Dieu nous montre. Hier, nous avions l'Assemblée générale du cycle formation jeunesse. Et chaque fois que je pense au CIFOG et à ces cours que nous avons en été, au CFB, CFJ, c'est un lieu très particulier où souvent les jeunes comprennent qu'ils sont aussi face à des choix où il faut faire du ménage dans leur vie. Il faut faire le ménage dans sa vie. Et ceux qui vont au bout en fait, de la démarche, comme Abraham, qui va jusqu'à faire partir Ismaël, peuvent regarder l'avenir avec confiance. Et on l'a souvent vu. Ceux qui vont jusqu'au bout peuvent regarder l'avenir avec confiance. Plus aucun boulet n'entrave leur marche, comme pour Abraham. Abraham a parfois été désorienté dans sa foi, mais l'Éternel ne l'a jamais laissé tomber. Il a fait une alliance avec lui et il a comblé de promesses. Et ça, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Nous parlerons de la foi renouvelée d'Abraham, de comment Dieu a renouvelé sa foi. Pour conclure aujourd'hui, rappelons-nous l'illustration de la boussole et enlevons toute perturbation que l'Esprit nous révèle afin de garder nos yeux orientés vers notre Dieu, sur Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est en confessant nos fautes à Jésus-Christ, en vivant à la repentance qui libère et la foi en l'œuvre de la rédemption de Christ que nous pouvons de nouveau regarder l'avenir avec confiance. S'écarter de Jésus-Christ, c'est entrer dans le champ de la perturbation de la boussole, c'est partir en Égypte. Abraham a parfois été désorienté, mais Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Il a parfois été désorienté, mais Dieu ne l'a jamais laissé tomber. N'hésitons jamais à revenir à Jésus-Christ. Il ne nous repoussera jamais. Si vous revenez à Christ d'un cœur repentant, il ne vous repoussera jamais. Ce même Abraham est cité par Dieu comme l'exemple de la foi à imiter. Quelle grâce en fait, quel amour Dieu manifeste. Même s'il est vrai qu'il ne cache pas les fautes, il pardonne et il souligne aussi les qualités. Vous savez que David est mentionné comme étant un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses chutes. Abraham est l'exemple de foi, non pas parce qu'il a été parfait, mais parce qu'il est toujours humblement revenu à Dieu. Et c'est à ce Dieu de grâce que nous voulons rendre gloire, et c'est vers lui que nous voulons tourner nos regards. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es celui qui est notre pôle d'attraction. Nous désirons que notre boussole soit dirigée vers toi, qu'elle ne soit pas perturbée, désorientée, et qu'ainsi nous puissions, sur le chemin de notre vie, toujours connaître la bonne direction. Nous avons besoin de toi. Éternel, tu nous dis dans ta parole que Abraham est un modèle de foi. C'est notre père dans la foi. On se dit, mais comment est-ce possible, lui qui a été déboussolé? Eh bien, c'est possible parce que c'est toi, en fait, qui es la source de cette foi. Et nous le verrons dans les prochaines prédications que tu as manifesté clairement dans sa vie que cette foi était vivante. Et j'aimerais te prier de nous aider à saisir aussi que si nous avons des désorientations et que tu nous les révèles, c'est pour que nous revenions à toi. Et nous te remercions parce que tu n'as jamais laissé tomber Abraham, comme tu ne nous laisseras jamais tomber non plus. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.